Bon réveil avec Europe 1. Les infos de ce matin avec Sophie Tussaud et Bernard Poirette.
Sophie, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Un rassemblement hors norme pour fêter le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. 70 chefs d'État et de gouvernement seront réunis tout à l'heure sous l'Arc de Triomphe. À Marseille, la colère des habitants de Noailles. En pleine marche blanche, un morceau de balcon s'est effondré hier. Et puis la route du Rhum au bout du suspense. L'écart se resserre entre François Gabart et Francis Joyon.
Le 11 novembre 1918, aux environs de Rouen.
Ah, il y a 100 ans. Il y a 100 ans, jour pour jour, s'achevait donc la Grande Guerre.
Oui, toute la journée, un vibrant hommage sera rendu aux poilus, aux combattants des tranchées, aujourd'hui tous disparus. L'un d'entre eux, Ferdinand Gilson, évoquait en 2002 sur Europe 1 le moment où il apprit que la guerre était finie.
Hein, on cherche ce témoignage de Ferdinand Gilson. On va le retrouver dans un très court instant, cet ancien poilu. Non, on l'a maintenant. On l'a pas, apparemment.
Eh bien, le 11 novembre 1918, aux environs de 11h, nous revenions de manœuvre. J'étais à l'école d'application militaire de Fontainebleau. Et j'entends du tintamarre des étudiants qui se tenaient par les épaules. Un copain arrive dans la chambre et dit « La guerre est finie, c'est tout ». Alors là, je vous explique pas le reste.
Quel sentiment vous avez eu à ce moment-là?
Ce que pourrait penser un condamné à mort si on lui disait qu'il était gracié.
À l'ancien poilu Ferdinand Gilson avec Marc Messier sur Europe 1, c'était en 2002. Les cérémonies aujourd'hui vont se succéder. Point d'orgue des commémorations ce matin sous l'Arc de Triomphe. Émission spéciale à suivre dès 10h45 sur Europe 1 autour de Wendy Bouchard. Et on prend pour l'instant la direction de l'Élysée où vous vous trouvez, Adrien Beck. Adrien, cette journée commence au palais présidentiel où vous vous trouvez actuellement.
Oui, dans un peu plus d'une heure, on attend ici 69 chefs d'État venus du monde entier. Angela Merkel, Donald Trump, Vladimir Poutine, le Canadien Justin Trudeau ou encore le président du Mali, le roi d'Espagne. Symbole de ce conflit mondial de 14-18. Vers 10h30, ces dirigeants seront emmenés en car jusqu'à la place de l'Étoile, lieu des cérémonies. Alors revue des troupes, sonnerie aux morts, puis lecture de lettres de poilus britanniques, américains, allemands, lues par des lycéens. Tout cela avant un discours d'Emmanuel Macron vers midi sur le thème de la paix, car c'est bien la tonalité que l'Élysée veut donner à ces commémorations du centenaire, célébrer la fin du conflit et surtout regarder vers le futur, d'où ce forum pour la paix cet après-midi à la Villette. Emmanuel Macron y défendra sa vision d'un monde multilatéral, dit son entourage, mais comme un symbole, ce sera sans Donald Trump, l'homme de l'America First. Au même moment, le président américain se rendra à Suresnes pour visiter le cimetière américain.
Adrien Beck à l'Élysée pour Europe 1.
La Première Guerre mondiale a été une épouvantable hécatombe pour toute une génération.
10 millions de militaires tués, autant de civils, parmi lesquels des femmes dont seulement une dizaine sont reconnues mortes pour la France. Et c'est le cas de Marcel Louvain, infirmière et native de Tours. La ville a décidé de lui rendre hommage. Jean-Gabriel Bourgeois.
Son nom a été gravé il y a quelques jours dans la pierre du monument aux morts à l'intérieur de l'hôtel de ville. Unique femme tourangelle morte pour la France en 1918. Fille de militaire, Marcel Louvain a 27 ans au début de la guerre. Elle prend part au conflit à l'hôpital et devient infirmière. Jacques Chevchenko est chargé du patrimoine à la mairie de Tours.
Mademoiselle Louvain s'est engagée dans la Croix-Rouge, le service de santé des blessés de guerre. Elle a rejoint l'hôpital du Val-de-Grâce. Elle était infirmière-major, c'est-à-dire chef.
Et c'est en soignant les soldats atteints de la grippe espagnole qu'elle contracte le virus. Elle décède le 13 octobre 1918, un mois avant l'armistice. À travers Marcel Louvain, ce sont toutes les femmes victimes de la Grande Guerre qui sont mises à l'honneur. Christophe Bouchet, le maire de Tours.
Derrière chaque homme mort au combat, derrière chaque homme qui était sur le front, il y avait des femmes. D'immenses douleurs, de mères qui perdaient plusieurs enfants, de filles qui perdaient leur papa. Donc je pense que c'était important de rendre hommage à toutes ces femmes qui ont eu un rôle relativement minimisé, de réhabiliter toutes celles qui étaient finalement non pas au combat, mais tellement utiles au combat.
Seulement une dizaine de femmes ont été reconnues mortes pour la France pendant la Première Guerre mondiale.
Jean-Gabriel Bourgeois à Tours pour Europe 1. Et je vous rappelle donc que dans 10 minutes, Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d'État aux armées, qui sera tout à l'heure en fin de matinée à l'Arc de Triomphe pour la commémoration de l'armistice, sera l'invitée d'Europe 1 dans la matinale. La colère, par ailleurs, monte et continue de monter à Marseille.
Hier, durant la marche blanche, en hommage aux victimes de l'effondrement de deux immeubles de la rue d'Aubagne, un morceau de balcon s'est écroulé sur le parcours du défilé. Un enfant de 7 ans et sa grand-mère sont tombés du premier étage. Un incident est quelques jours après la mort de 8 personnes et qui ajoute à la polémique. Stéphane Frangy.
Ils étaient sortis sur le balcon au premier étage pour voir passer la marche blanche silencieuse. L'enfant et sa grand-mère s'en sortent avec des blessures légères, de même qu'une passante. Scène choquante pour les témoins comme Marie-Laure.
C'est le bruit que j'ai entendu qui m'a fait me retourner. J'ai entendu un immense bruit, quelqu'un qui hurlait. Je me retourne, je vois une dame dans les décombres qui venait de tomber de son balcon. Ça est allé très très vite.
Une coïncidence bouleversante pour tous dans le cortège, témoigne le député La République En Marche, Saïd Amada.
J'ai mal au cœur, parce qu'évidemment c'est le symptôme par l'absurde quelque part de la situation que connaît la ville. Mais ça note juste le niveau de délabrement de certains immeubles dans cette ville. Est-ce qu'on doit ne plus longer les murs de peur de prendre un parpaing? Est-ce que les Marseillais aujourd'hui sont protégés? Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ce qui s'est passé ne se reproduise pas?
Il y a un accident qui a électrisé surtout les manifestants à l'approche de la mairie.
C'est honteux. La France d'en bas, on s'en fout, monsieur. Godin préfère faire des hôtels luxueux, monsieur, à Marseille. Mais on ne se préoccupe pas des gens.
Des manifestants qui sont allés demander la démission de Jean-Claude Godin et prévoient déjà un autre rassemblement mercredi soir au départ de la rue d'Aubagne. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
À l'étranger, les feux qui ravagent la Californie sont incontrôlables. Au moins 23 personnes ont été tuées, 30 autres sont portées disparues. Paradise n'est désormais plus qu'une ville fantôme.
À suivre dans ce journal dans un instant, l'histoire d'une caissière. Une caissière qui a interpellé Emmanuel Macron cette semaine dans son itinérance mémorielle. Ça se passe dans le Pas-de-Calais. Elle l'a interpellé sur sa situation professionnelle. Elle a eu du nez parce que ça s'est bien arrangé pour elle.
Europe 1, il est 8h06. Retour de l'actu avec Sophie Tussaud et Bernard Poiret.
Sophie, une jeune caissière du Pas-de-Calais, a reçu un coup de pouce plutôt inattendu.
Océane, 19 ans, enchaîne les CDD chez Carrefour. Cette semaine, lors de la visite d'Emmanuel Macron à Lens, elle l'interpelle sur sa situation professionnelle. Et en seulement quelques heures, elle décroche un CDI. Une promotion surprenante à la veille de l'annonce de l'instauration d'un bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts. Rémi Botsaron.
Tout commence dans un centre socio-culturel de Lens, vendredi matin. D'une voix timide, Océane expose sa situation à Emmanuel Macron.
Et je voulais vous demander si vous prévoyez des mesures nouvelles pour l'emploi des jeunes.
Alors, d'abord, on va suivre quand même le dossier avec la mission locale sur la situation dans laquelle vous êtes à Carrefour, parce que toute la réforme qu'on est en train de conduire, c'est aussi de favoriser l'emploi durable.
Et le dossier est visiblement très vite suivi, puisqu'à la sortie de cette réunion, Océane voit s'approcher le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin.
Il est venu prendre mon numéro de téléphone. Une demi-heure après, j'ai reçu un coup de téléphone de la DRH de Carrefour France. Elle m'a dit que j'allais être convoquée dans le bureau de mon directeur.
Rendez-vous qui s'est donc tenu dès hier au magasin Carrefour de Liévin.
Il m'a demandé ce que ça m'apportait d'être chez Carrefour. Il m'a demandé si je voulais évoluer. Il m'a dit mes compétences, que j'étais un bon élément et qu'il voulait me proposer un CDI.
Et au total, ce sont même 4 des 5 employés en CDD du magasin qui ont soudainement eu droit à un CDI. Une situation qui laisse perplexe un représentant de la CGT chez Carrefour, contacté hier soir. Même s'il se réjouit pour Océane, ce syndicaliste appelle Emmanuel Macron à se soucier des centaines de salariés en situation précaire dans l'entreprise.
Rémi Bossaron.
Prenons maintenant la direction de la route du Rhum qui se termine.
Oui, et rien n'est encore joué à quelques heures de l'arrivée du vainqueur. François Gamard est toujours en tête, mais Francis Joyon réduit l'écart dans la dernière ligne droite. Avant Pointe-à-Pitre, les deux skippers restent concentrés et ne lâchent rien. Corinne Boulou.
L'écart risque d'être infime à l'arrivée et de vainqueur, il n'y en aura qu'un. Avantage encore à François Gabart, dont le maxi trimaran massif collectionne les succès depuis sa mise à l'eau en août 2015. Mais attention, ces dernières 24 heures, Francis Joyon revient sur lui comme un avion. Une différence de vitesse qui interpelle, même si officiellement, pas de casse à signaler. En attendant d'éclaircir certains mystères, les deux navigateurs vont devoir contourner dans la journée l'île Antillaise, un final de 150 km compliqué avant de pouvoir enfin franchir la ligne d'arrivée. Loïc Perron, vainqueur en titre, en garde un souvenir mémorable.
Quand on arrive avec un bateau de 30 mètres, après avoir traversé pendant 7 jours un peu au taquet, et qu'on voit qu'il y a des centaines de bateaux suiveurs qui sont là, j'ai encore 3 virements de bord à faire en catastrophe. Chaque virement, c'est vraiment une dépense physique, une contrainte très complexe. Je ne vous cache pas que ça a été, ces dernières heures de route du Rhum ont été les pires, quasiment les pires que j'ai jamais vécues sur l'eau, parce que trop dangereuses.
Et ce ne sont pas ces averses tropicales qui s'abattent en ce moment sur l'île qui vont réfréner les ardeurs guadeloupéennes. Il y aura de nombreuses embarcations pour fêter le 11e vainqueur de la route du Rhum. Pointe-à-Pitre, Corinne Boulou, Europe 1.
La voile, c'est assurément du sport et le rugby aussi, Axel May. Et je vous pose la question suivante. Quand est-ce que l'équipe de France va enfin gagner ?
Vous connaissiez en football le dicton et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. Et bien en rugby c'est et à la fin c'est la France qui perd. Les Bleus ont une nouvelle fois montré de belles choses avant de céder face à leurs adversaires. Pire hier soir contre l'Afrique du Sud. La France menait encore à 2 secondes de la fin, mais elle a encaissé un essai et a perdu 26 à 29. Le capitaine Guillaume Guirado répond à Simon Rubin.
Le positif, je le retiens beaucoup plus facilement avec une victoire. Donc, ça nous était déjà arrivé sur le tournoi 2018 contre l'Irlande. Donc, j'espère qu'on aura retenu la leçon et que ça ne nous arrivera plus jamais.
Alors, on ne va pas accabler les Bleus de reproches et critiques diverses, mais on se permettra de leur rappeler que dans 10 mois, il y a la Coupe du Monde de rugby et que leur dernière victoire contre une nation majeure de l'hémisphère sud remonte à 2014, à l'époque, c'était contre l'Australie.
Et l'équipe de France affrontera samedi prochain l'Argentine pour son deuxième test match du mois de novembre. Le football, le trio de tête en Ligue 1 ce matin, c'est Paris Saint-Germain, Lille et Montpellier.
En perdant hier à Angers, Montpellier a laissé sa place de dauphin du Paris Saint-Germain à Lille, qui avait fait match nul un vendredi contre Strasbourg. À la 4e place du championnat, on trouve Lyon devant Saint-Etienne. Suite et fin de cette 13e journée de Ligue 1 aujourd'hui, avec notamment Bordeaux qui reçoit Caen et Marseille qui accueille Dijon. Ce soir, deux équipes ébranlées ces derniers jours par les Football Leagues s'affrontent. Monaco recevra le PSG.
Et puis parlons de l'équipe de France féminine de football. Ça va mieux pour elle que pour nos rugbyman masculins.
Des Bleus en mode samba, pourrait-on dire. En match amical, les Françaises ont battu hier soir à Nice les Brésiliennes 3 à 1. Tiens, à propos de Brésil, l'avant-dernière manche du championnat du monde de Formule 1 se déroule sur le circuit d'Interlagos et à Sao Paulo. Lewis Hamilton, déjà assuré du titre, a signé la 100e pole position de l'histoire de Mercedes. Le Britannique qui portera aujourd'hui un casque aux couleurs du Brésil en hommage à son idole Ayrton Senna.
Ayrton Senna décédé, bien sûr, sur le circuit d'Italie. Axel May pour ce journal des sports. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous, Axel.